VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump poursuit ses discussions avec les leaders étrangers. Après sa conversation téléphonique mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'exécutif américain reçoit pour la première fois aujourd'hui à la Maison-Blanche Mahmoud Abbas, le président palestinien. L'entretien téléphonique d'hier entre le président Trump et Vladimir Poutine était la première conversation entre les deux leaders depuis que la Russie a condamné les tirs de missiles américains contre une base syrienne. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Les présidents Trump et Poutine ont discuté de la guerre en Syrie, rapporte la Maison-Blanche qui qualifie cette conversation de très bonne. Les responsables du Kremlin, cités par les médias russes, parlent de leur côté d'une conversation sérieuse et constructive. Toujours selon le Kremlin, les deux parties ont convenu que leur chef de diplomatie, Rex Tillerson et Sergei Lavrov, intensifient les discussions pour un cessez-le-feu en Syrie. Les présidents Trump et Poutine sont d'avis que la souffrance a trop duré en Syrie et que toutes les parties doivent tout faire pour mettre un terme à la violence, a fait savoir la Maison-Blanche. La Russie organise des pourparlers sur la Syrie ce mercredi à Astana, au Kazakhstan. Les États-Unis enverront un représentant à cette rencontre à laquelle participeront l'Iran et la Russie. Une précédente série des négociations conjointement organisées par la Russie et les États-Unis sous l'administration Obama n'avait rien donné.
Crise en Libye. Les Émirats arabes unis se disent optimistes sur une solution de la crise après les entretiens à Abu Dhabi entre les deux principaux protagonistes du conflit libyen. Les autorités de cet État du Golfe arabo-persique demandent instamment à l'ONU de nommer un nouvel émissaire pour la Libye, Idrissa Sédoudia.
Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale soutenu par l'ONU et l'Occident, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées des autorités parallèles basées dans l'est du pays, ont tenu leur rencontre à Abu Dhabi pour tenter de trouver un terrain d'entente sur un règlement de la crise. La rencontre suscite de l'optimisme quant à une solution politique en Libye, a souligné le ministère des Affaires étrangères des Émirats, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ici, un allié du maréchal Haftar, tout comme les Émirats arabes unis, est attendu mercredi à Abu Dhabi, mais il n'est pas clair si cette visite de deux jours est liée ou non au pourparlers interlibyen. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont souligné la nécessité de nommer un nouvel émissaire de l'ONU en Libye. L'ONU a proposé le Palestinien Salam Fayyad pour remplacer l'actuel émissaire Martin Kobler, mais les États-Unis y ont mis leur veto, ce dont s'est félicité Israël.
La lutte contre Boko Haram maintenant. Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste nigérian, aurait été blessé et d'un de ses adjoints tué lors d'un raid aérien dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'annoncent ce mercredi plusieurs sources sécuritaires. Selon ces sources, deux avions nigérians ont bombardé des combattants de Boko Haram réunis en prière vendredi dernier à Bala, un village situé à quelques 40 km de Damboa, en lisière de la forêt de Sambisa, l'un des bastions des islamistes. Shekau a été blessé dans le bombardement et serait soigné près de la frontière avec le Cameroun vers Kolofata, précise l'une de ses sources en ajoutant que son adjoint Abba Mustafa alias Malamaba a été tué, ainsi qu'un autre de ses lieutenants, Aboubakar Gachoua, alias Abu Aïcha. Les autorités nigériennes ont déjà annoncé à au moins trois reprises avoir tué Shekau dans le passé. Mais le chef de Boko Haram est apparu dans une vidéo en mars pour revendiquer la responsabilité d'une série d'attentats suicides. Aujourd'hui, le 3 mai, est la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la protection des journalistes et à cesser toutes les formes de répression à leur rencontre. Pour sa part, Amnesty International a exhorté les pays, les autorités de la RDC hier, à rétablir sans condition le signal de RFI à Kinshasa, John Lydon.
Le signal de RFI est coupé depuis le 5 novembre 2016 à Kinshasa, alors que devait se tenir une manifestation interdite de l'opposition contre le président Joseph Kabila. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce donc cette coupure arbitraire et prolongée et demande sa réouverture sans condition. Dans ce texte publié la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Amnesty exhorte également les autorités congolaises à garantir et protéger les libertés de la presse et de l'information. Amnesty, citant Reporters sans frontières, a noté qu'en RDC, les professionnels des médias sont régulièrement arrêtés arbitrairement, tabassés, humiliés, leur matériel saisi. Le pays occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, on ne s'adresse pas à un gouvernement par voie de communiqué de presse. La RDC ne réagira donc pas à cet appel.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA, selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacées ces trois derniers mois dans le pays suite à des attaques de groupes armés contre des civils. La Centrafrique sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Louis Mudge, chercheur à Human Rights Watch, nous fait un état des lieux.
Il y a deux groupes des ex-sénégalais qui continuent de s'affronter entre eux. Et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-sénégalais, les FPRC et les UPC. Donc, bien sûr, il y a des présences de la Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, cette nouveau de gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Louis Mudge, chercheur à la division Afrique de Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. Au Burundi, beaucoup d'activités sont paralysées par une pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs jours dans la capitale Bujumbura. Cette situation est due au manque de devises selon le gouvernement, alors que le pays est plongé depuis deux ans dans une grave crise politique. De Bujumbura, notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza. Présidentielle en France maintenant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats au second tour de dimanche, s'affrontent ce soir lors d'un débat télévisé crucial à quatre jours du scrutin. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Le débat va durer environ 2h30. Les candidats ont allégé leur agenda pour préparer ce duel décisif. Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir laisser à son adversaire du Front National la possibilité de continuer à dire des contre-vérités dangereuses. Marine Le Pen assure pour sa part qu'elle défendra ses convictions et une politique totalement différente, dit-elle. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec son adversaire surprise, le fondateur du parti d'extrême droite et père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Mais Chirac avait bénéficié à l'époque d'un front républicain qui lui avait permis d'être réélu avec plus de 80% des voix et qui, cette fois, a volé en éclats. Emmanuel Macron, arrivé en tête avec son parti En Marche au premier tour le 23 avril, veut solidifier l'avantage de 20 points dont le créditent les sondages sur sa rivale. Il tente d'attirer les électeurs du candidat Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour. Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote. Après avoir effectué une visite surprise le 26 avril à une usine Whirlpool, Marine Le Pen, elle, essaie de présenter son adversaire comme le candidat de la finance et des salles de marché.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.